Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les accords d'Oslo en septembre 1993 ont marqué un tournant pour le nationalisme palestinien. Ils ont transformé l'OLP en force de gouvernement tout en favorisant l'émergence d'un front du refus. De sorte que ce nationalisme palestinien apparaît aujourd'hui extrêmement fragmenté, une mosaïque éclatée, écrit Nicolas Dopouillard dans son dernier livre publié chez Actes Sud. L'auteur donne un éclairage sur les positions des différentes forces de résistance en présence, du Fatah au Hamas en passant par le djihad islamique et la gauche. À suivre également la revue de presse Regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Nicolas Dopouillard, bonjour.
Bonjour.
Docteur en sciences politiques, nous sommes en ligne avec vous depuis Beyrouth, puisque vous êtes chercheur associé à l'Institut français du Proche-Orient dans la capitale libanaise. Alors, vous publiez chez Actes Sud « La mosaïque éclatée, une histoire du mouvement national palestinien 1993-2016 ». Pourquoi faire démarrer cette histoire en 1993, précisément ?
Bon, l'idée de 1993 s'impose d'elle-même, puisque 1993, c'est la signature des accords d'Oslo, en septembre 1993. C'est la signature des accords d'Oslo par Yasser Arafat et par également à l'époque Mahmoud Abbas avec Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien. Et en même temps, c'est à cette époque finalement qu'on voit cette grande division, ce grand éclatement du mouvement national palestinien, puisque le même mois se réunissent à Damas, cette fois au camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk près de Damas, d'autres factions palestiniennes, dont le Hamas, dont le Front populaire pour la libération de la Palestine, dont le djihad islamique, qui eux s'opposent aux accords d'Oslo. Donc on voit finalement en septembre 1993 une coupure verticale au sein de ce mouvement national.
Oui, 1993, finalement, ces accords, c'est à la fois l'OLP qui devient un parti de gouvernement et non plus de résistance, et aussi l'émergence d'un front du refus.
Oui, c'est l'émergence d'un front du refus, donc qui au départ est basé, je dirais, à Damas, mais qui prend une certaine ampleur dans les territoires occupés, qui prend une certaine ampleur à Gaza, en Cisjordanie, mais également dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban. Et c'est la création, c'est ce qui va mener peu à peu à la création de ce qu'on appelle l'autorité nationale palestinienne. L'autorité nationale palestinienne ne remplace pas l'OLP. L'OLP existe toujours, d'ailleurs elle existe toujours en 2016. Simplement, l'autorité nationale palestinienne va effectivement empiéter sur un certain nombre de prérogatives passées de l'organisation de libération de la Palestine, mais cette organisation de libération de la Palestine elle continue à avoir un rôle central chez les Palestiniens. Les Palestiniens demandent la réforme de l'OLP, notamment depuis 2005. En 2005, tous les partis politiques palestiniens, le Fatah, le Hamas, etc., se réunissent au Caire et demandent une réforme de l'OLP. Donc l'OLP n'a pas disparu par ailleurs.
Alors, dès le début, un débat a secoué la question nationaliste. Vous l'écrivez dans votre livre. C'est celle des frontières de la Palestine. Est-ce que ce débat a encore lieu aujourd'hui ?
Le débat autour des frontières, je dirais, de la Palestine, est-ce qu'on accepte deux États sur les frontières de 1967 ? Il y a encore des Palestiniens aujourd'hui qui se réclament d'un seul État, donc sur les frontières de 1948, sur ce qu'on appelle les frontières de la Palestine mandataire. Il y a aujourd'hui des débats sur un État binational. Alors ce débat sur l État binational, c'est-à-dire d'un État où deux communautés, juives et arabes, auraient chacune certains droits culturels spécifiques, mais vivraient dans un seul État commun, elle est plus évoquée, je dirais, dans certains milieux qu'on appelle un peu la gauche post-sioniste en Israël. Mais il y a les débats sur l'État, sur les frontières, ne s'est jamais arrêté. Et il ne s'est jamais arrêté pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir quand même que les territoires, notamment la Cisjordanie, sont considérablement liés, je dirais, d'une certaine manière, à Israël, du fait de la colonisation. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une telle imbrication des deux populations que finalement, la perspective des deux États a été tuée, d'une certaine manière, par la colonisation et que finalement, aujourd'hui, on voit même la question d'un seul État renaître et se reposer chez les Palestiniens, mais également dans certains secteurs de ce qu'on appelle la gauche post-sioniste critique en Israël.
Et puis n'oublions pas qu'il y a des Palestiniens en Israël, ce sont les Arabes israéliens, et eux, ils ont une feuille de route tout à fait indépendante, particulière.
Alors, ils ont à la fois une feuille de route indépendante, en même temps, ils ont toujours été en discussion avec les forces de l'Organisation de Libération de la Palestine, historiquement, mais c'est vrai qu'ils ont un statut spécifique, ils se définissent au niveau de leur identité comme Arabes palestiniens, c'est quelque chose auquel ils tiennent. En même temps, ils sont israéliens, donc effectivement, leur feuille de route est légèrement différente de celle des autres. Ils sont représentés par des partis politiques à l'Assemblée israélienne, à la Knesset, et effectivement, eux se reconnaissent plutôt dans le principe des deux États, de manière assez logique, mais ce qu'ils demandent, essentiellement, c'est la fin de ce qu'ils appellent la fin des logiques d'apartheid, la fin de la discrimination vis-à-vis des citoyens arabes et une résolution juste de la question palestinienne dans son ensemble, c'est-à-dire qu'ils n'abandonnent pas non plus l'idée d'une certaine solidarité avec la population des territoires.
Vous parliez il y a quelques instants de l'OLP, et vous consacrez d'ailleurs un long chapitre à la réforme annoncée de l'OLP qui est non réalisée. De quoi s'agit-il précisément ?
L'OLP, théoriquement, par exemple, au niveau des négociations internationales, normalement, c'est toujours l'OLP qui est en charge des négociations internationales, ce n'est pas l'autorité nationale palestinienne. Il faut savoir que les accords d'Oslo en septembre 1993 ont été signés avec l'Organisation de libération de la Palestine, puisque la lettre de reconnaissance mutuelle entre Israéliens et Palestiniens est une lettre notamment de reconnaissance par les Israéliens du rôle de l'Organisation de libération de la Palestine. Donc elle a toujours un rôle, je dirais, central, même si elle a été considérablement amoindrie. Deuxièmement, l'Organisation de libération de la Palestine, elle représente l'ensemble des Palestiniens, c'est-à-dire les Palestiniens des territoires, mais aussi les Palestiniens de la diaspora. Et c'est la grande différence avec l'autorité nationale palestinienne, qui, elle, n'est qu'un organisme, je dirais, proto-gouvernemental dans les territoires palestiniens. Deuxièmement, donc cette OLP qui est censée représenter tous les Palestiniens, c'est-à-dire les Palestiniens de la diaspora et les Palestiniens des territoires occupés, cette organisation de libération de la Palestine, elle est en crise. Et effectivement, depuis 2005, tous les partis politiques palestiniens, membres de l'OLP et non membres de l'OLP, réfléchissent à sa réforme. Et pourquoi sa réforme ? C'est l'idée que tous les Palestiniens du monde entier doivent avoir une représentation commune. Tous les partis politiques palestiniens doivent avoir un organisme, je dirais, pour discuter ensemble, pour penser leur stratégie, pour penser leur dialogue national. Et que dans ce cadre, l'OLP, une nouvelle OLP, une OLP renouvelée, pour être un outil utile pour l'ensemble des Palestiniens.
Mais est-ce que cette réforme de l'OLP se heurte à ce que vous appelez l'archipel des souverainetés ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je parle dans le livre essentiellement d'une crise du monde national palestinien, d'une crise qui est telle que, dans l'introduction, je dis, peut-on encore parler de mouvement national palestinien ? Il y a effectivement des souverainetés en archipel. Il y a d'abord une division géographique extrêmement problématique pour les Palestiniens entre une bande de Gaza plutôt sous la direction de Hamas et une Cisjordanie plutôt sous la direction du Fatah. Il y a des camps de réfugiés au Liban dans lesquels il y a effectivement des groupes locaux palestiniens qui ont plus de pouvoir dans certains endroits que dans d'autres. Il y a la situation très spécifique de la Syrie où les partis politiques palestiniens proches de Bachar el-Assad sont encore présents dans un certain nombre de camps. Donc effectivement, on voit un peu des souverainetés en archipel et une certaine difficulté pour ce mouvement national à se réunifier et un peu à penser à sa stratégie de long terme.
Nicolas Dopouillard, diriez-vous qu'aujourd'hui, le nationalisme palestinien s'est islamisé, comme il s'était d'ailleurs gauchisé dans les années 60-70.
Oui, c'est un peu la thèse que j'évoque, mais en disant qu'il s'est islamisé, comme il s'était gauchisé dans les années 70, ce que je veux aussi montrer, c'est que c'est le nationalisme qui gagne toujours. Et on le voit très bien avec un parti comme le Hamas, ou on le voit très bien avec un parti comme le Jihad islamique, qui aujourd'hui sont des partis qui ne s'inscrivent pas du tout dans une perspective qu'on pourrait appeler pan-islamique. Ce sont d'abord des partis nationalistes, c'est-à-dire c'est le nationalisme qui a gagné, je dirais, dans leur programme, dans leur stratégie. Aujourd'hui, le Hamas, on le voit, est un parti en fait extrêmement pragmatique. C'est un parti qui propose une trêve sur les territoires de 1967 avec Israël, qui a été capable même de mener des négociations indirectes avec les Israéliens. Donc c'est un parti fondamentalement mu par le nationalisme, tout comme la gauche radicale palestinienne des années 1970 était fondamentalement nationaliste. Donc on a d'un côté une islamisation du nationalisme, mais finalement on voit qu'à la fin c'est toujours le nationalisme et l'identité nationale palestinienne qui gagne.
Mais par exemple pour le Hamas ou pour le Jihad islamique, quelle est la position par rapport à l'État islamique qui a émergé il y a 3 ans maintenant ?
Sur ce point-là, il n'y a, je pense, pas d'ambiguïté possible ou de choses cachées, puisque l'État islamique lui-même a dit sa position vis-à-vis du Hamas et du Jihad islamique en faisant des communiqués contre ces deux organisations. L'État islamique a fait des tentatives d'attentat dans la bande de Gaza contre des dirigeants du Hamas et du Jihad islamique. Il les a condamnés publiquement et à l'inverse, ces organisations condamnent publiquement l'État islamique, ce qui est tout à fait logique, puisque les deux s'inscrivent, que ce soit pour des raisons idéologiques, politiques, etc., s'inscrivent dans des logiques complètement différentes. L'État islamique n'a pas comme priorité la question palestinienne, il veut construire un émirat islamique, alors que le Jihad islamique et le Hamas, qui sont des organisations islamistes nationalistes palestiniennes, eux, s'inscrivent dans l'idée de la construction d'un État-nation dans un territoire bien précis.
Et la gauche palestinienne, où se trouve-t-elle aujourd'hui ?
Alors, elle existe encore, elle survit. Souvent, on dit que la gauche n'existe plus par ailleurs dans le monde arabe. Ce n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, ce n'est pas tout à fait vrai pour un certain nombre de pays. Il y a des formations de gauche dans les territoires palestiniens, dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban. Elle est présente aux élections syndicales étudiantes. En général, elle se situe troisième, même aux élections syndicales étudiantes, même si c'est loin derrière le Hamas ou le Fatah, par exemple, bien évidemment. Mais elle existe encore. Elle a montré également, lors de la guerre israélienne sur Gaza de l'été 2014, qu'elle avait des capacités militaires. Le Front populaire pour la libération de la Palestine a était très actif lors de la guerre de l'été 2014. Donc c'est une gauche encore qui existe, mais qui est naturellement considérablement affaiblie, hein, parce qu'elle a quand même face à elle deux mastodontes politiques que sont le Fatah et le Hamas. Et on parle souvent de Hamas, mais il ne faut pas oublier que le Fatah reste quand même une organisation populaire implantée dans les camps de réfugiés palestiniens et qui joue beaucoup sur le charisme passé de Yasser Arafat. Donc la gauche a quand même affaire à deux partis mastodontes, Hamas et Fatah. Donc elle est dans une situation difficile, mais comme je dis, elle vit, elle tente de survivre, mais elle a quand même une existence patente dans le champ politique palestinien.
C'est elle qui représente encore le nationalisme laïque ?
La question n'est pas tant laïque ou islamiste actuellement dans les territoires palestiniens. La question est comment s'opposer ou pas aux politiques d'occupation. Et on voit par exemple que des partis de gauche s'allient beaucoup à des partis islamistes sur des questions concrètes, politiques, sur la question par exemple de la coopération sécuritaire avec Israël. Lorsque Mahmoud Abbas, membre du Fatah, affirme qu'il va continuer la coopération sécuritaire avec Israël, la gauche et les islamistes font un communiqué politique commun. Donc ce qui coupe le champ politique palestinien ne se situe pas tant entre laïcs et islamistes que sur les questions de comment effectivement développer une lutte contre l'occupation israélienne, contre les agressions israéliennes sur la bande de Gaza, etc. C'est ça, finalement, je dirais, qui détermine les alliances palestiniennes.
Merci, Nicolas Dopouillard. Je rappelle que vous publiez chez Actes Sud « La mosaïque éclatée, une histoire du mouvement national palestinien 1993-2016 ».
Merci beaucoup.
À propos des Arabes israéliens dont nous parlions il y a un instant, le rappeur Tamer Nafar est dans le viseur de la ministre de la Culture, Miri Regev, depuis qu'il a lu sur scène, aux côtés d'un chanteur juif israélien, un poème écrit par un opposant palestinien. Tamer Nafar, artiste engagé, dont voici un morceau emblématique, Super Lancer, qu'il partage avec un autre rappeur, Mourad Abou Hamad.
Abou Hamad, Shakespeare le rap. جيل 18
Superlancer du rappeur arabe-israélien Tamer Nafar. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la bataille de Mossoul fait la une des journaux panarabes qui multiplient scénarios et analyses.
Oui, des journaux qui soulignent les risques de catastrophe humanitaire avec 700 000 civils qui pourraient fuir les combats et se retrouver sans abri et sans vivre. Des éditorialistes rejettent par ailleurs des déclarations des ministres turcs selon lesquelles la bataille de Mossoul pourrait déclencher une guerre mondiale. Les grandes puissances sont uniquement intéressés par l'éradication du risque terroriste que constitue le groupe État islamique et ne vont pas se lancer dans une escalade sans enjeu réel, écrit un éditorialiste. Tandis que la presse irakienne, elle, s'en prend à ce qu'elle considère comme l'ingérence turque dans les affaires intérieures de l'Irak sous couvert de défendre la minorité turkmène de Mossoul. D'autres analystes s'interrogent sur la stratégie qu'adoptera Daesh, le groupe État islamique. Une défense jusqu'au boutiste ou un repli tactique. En attendant, la bataille de Mossoul a fait oublier le drame d'Alep, estime une éditorialiste.
Pas de bataille de Mossoul, mais des questions sécuritaires dans la presse israélienne, Michel, cette semaine.
Sécurité tous azimuts, si l'on peut dire, Eric, et tout d'abord sur terre, avec ce titre du quotidien Haaretz, selon lequel, sans presque faire d'efforts, la Russie impose des limites à l'armée israélienne. Il s'agit bien sûr de la frontière avec la Syrie. La Russie, toujours selon cet article, a réussi de facto à imposer à Israël un ordre politique nouveau dans ce secteur. Alors le journal fait remarquer que la DCA russe couvre tout le Liban, une partie de la Turquie et aussi la moitié des bases aériennes israéliennes. C'est donc toute une stratégie qui est à réviser. Sécurité sous les mers également, avec ce titre qui barre la une du quotidien Maariv. À l'issue de négociations secrètes, proclame le journal, Israël va acquérir 3 nouveaux sous-marins de fabrication allemande, une transaction d'un montant d'1,2 milliard d'euros. Il s'agit de sous-marins ultra sophistiqués, indique encore Maariv, qui ajoute que cet achat est critiqué à la fois par les militaires et par les responsables de l'économie. L'étude de marché n'aurait pas été suffisante. Et puis l'autre élément qui figure dans tous les journaux, c'est un attentat déjoué de justesse dans le sud du pays. Les membres d'une cellule ont été appréhendés alors qu'ils s'apprêtaient à œuvrer sur 2 fronts, l'enlèvement et l'assassinat d'un soldat israélien, et aussi l'attaque d'une salle de mariage dans la région de Beersheva. Alors de l'avis des commentateurs, si l'une de ces 2 attaques avait réussi, cela aurait pu provoquer des réactions particulièrement musclées de la part d'Israël.
Alexandre, le journal Alayat consacre un reportage au cinquantenaire des journées cinématographiques de Carthage.
Oui, et ce qui retient le plus l'attention du journal est le film Zahrat Halab, ou La fleur d'Alep, l'œuvre du réalisateur tunisien Red Alberi, qui s'attaque au phénomène de radicalisation des jeunes en Tunisie et leur départ pour le djihad en Syrie. Une question qui préoccupe la société en Tunisie, la Tunisie qui est le pays arabe qui détient le record de jeunes partis en Syrie rejoindre Daesh, le groupe État islamique. Le film raconte l'histoire du maire qui décide de partir en Syrie, affronter le monde de Daesh pour tenter de sauver son fils. Le journal estime que la nouvelle édition du festival, devenu annuel, vise à redorer le blason après que plusieurs pays arabes, notamment le Maroc et les Émirats, aient commencé à organiser des festivals cinématographiques qui font de l'ombre à Carthage. Le journal regrette l'absence de films algériens alors que l'Algérie était jusque-là un participant incontournable.
Et puis un curieux fait divers dans le journal Al-Quds Al-Arabi, l'Égyptienne polygame.
Oui, selon le journal, une Égyptienne a réussi l'exploit d'épouser simultanément 2 hommes et de les loger sous le même toit, un marbrier et un policier. Alors durant 6 mois, elle a réussi à convaincre chacun de ses 2 époux que l'autre était son frère. La supercherie découverte, les 2 maris ont porté plainte et la femme polygame, car il semblerait qu'il y ait un 3e mari qui travaille dans le Golfe, risque entre 2 et 5 ans de prison. Alors la polygamie est en effet licite pour les hommes en Égypte, mais pas pour les femmes. Toutefois, le mariage dit « Odfi » ou « mariage coutumier » a provoqué une multiplication de cas de polygamie chez les femmes. Le mariage « Odfi », c'est en effet un mariage qui n'est pas enregistré et il consiste simplement à signer 2 bouts de papier certifiés par 2 témoins. Pas besoin donc de divorcer et il suffit de déchirer les 2 copies de ce contrat.
Alors dans un autre registre, Michel Paul, les élections américaines sont toujours très commentées dans la presse israélienne cette semaine.
Oui, les Israéliens suivent de très près la campagne électorale américaine, bien entendu. Yedioth Ahronot y consacre cette semaine un dossier qui occupe ses premières pages sous le titre « L'autre Amérique ». Une analyse sur Donald Trump dans le même journal s'intitule tout simplement « Il perd l'Amérique ». Un commentateur estime qu'il ramène son pays 150 ans en arrière et un autre traite Trump de « fou » qui vient de finir sa carrière.
On termine avec votre photo de la semaine, Michel.
Eh bien, c'est la photo de 3 chercheurs du célèbre Institut Weizmann qui affirment avoir trouvé une technique pour neutraliser le jet lag, ce décalage que l'on a du mal à surmonter en avion. Et cela pourrait, bien sûr, révolutionner les transports aériens.
Oui, avis aux voyageurs au long cours. Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, Fabien Munieret. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio, www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine à l'écoute de RFI. À samedi prochain, tout de suite, un nouveau journal.